France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On pensera sans doute, en abordant ces deux histoires de volcans, à l'ascension christique et rédemptrice du volcan Stromboli par Ingrid Bergman dans le film éponyme de Roberto Rossellini. La Suédoise qui ne parvient ni à aimer ni à comprendre la vie frustre de l'île sicilienne où elle doit vivre, en approchant du cratère, de sa lave et de ses fumées, se rapproche de la grâce et du salut. Sans doute, les lecteurs de Malcolm Lowry et de son fort symbolique aussi en dessous du volcan se souviendront-ils aussi peut-être de ces deux volcans mexicains qui dominent le livre, tantôt menaçants, apaisants, resplendissants au coucher du soleil ou inquiétants de façon sourde des personnages qui ne sont pas très en forme. Il y a le Popocatépetl qui en langue aztèque veut dire « montagne qui fume » et l'Ixtacihuatl qui symbolise, selon la légende, une femme endormie sur laquelle le premier, de son petit nom Popo, veille comme un guerrier. Évidemment, les volcans représentent à la fois cette menace qui plane avec d'infimes et infinies variations, mais aussi le chaos que vivent ces personnages au bord de l'éruption et la descente aux enfers qu'ils vont connaître dans le roman que je vous recommande. Mais tout de suite, voici deux histoires vraies et aussi symboliques par Élise Andrieux, évidemment.
Je m'appelle Benoît, j'ai 50 ans, je travaille à l'université, j'habite à Bordeaux. J'ai deux enfants, un garçon de 21 ans et une fille de 19 ans. Et en avril 2015, nous avons décidé avec ma femme de visiter le Chili avec nos enfants. Quelques années auparavant, on avait visité le Chili seul et nous avions été très marqués par la nature, par les volcans, la mer, les parcs naturels, les gens. Et on avait envie de partager ça avec nos enfants qui étaient plus grands, qui avaient à l'époque 11 ans et 14 ans. Nous nous sommes retrouvés à Santiago du Chili le 20 avril 2015. Là, nous avons ensuite pris la voiture pour rejoindre la chambre d'hôte qui se trouve sur les flancs du volcan Calbuco. Et puis le lendemain, on a décidé de grimper en haut du Calbuco. Nous n'avions aucune connaissance du volcan Calbuco, si ce n'est que c'était un des plus dangereux du Chili et qui n'avait pas explosé depuis une quarantaine d'années. C'est un volcan très sombre, très gris, avec un très déstructuré, avec un cratère complètement évasé, détruit. C'est un volcan actif, mais endormi. Et on n'avait pas fait de recherche particulière sur ce volcan. C'est moins le volcan en lui-même, ou sa typologie qui nous intéressait, que le fait de faire l'ascension. Il mesure à peu près 2000 mètres, donc c'est cette randonnée-là qui nous semblait intéressante à faire. Et donc, dès le départ, on rentre dans une nature très belle, avec un temps magnifique, un ciel bleu. Nous avons pique-niqué le long du chemin, avant de rentrer dans une forêt très dense. Il faut savoir que certains volcans, par l'alimentation des cendres, produisent des poussées de forêt et de végétation très fortes. Et là, il s'avère que c'était une forêt très très dense, ce qui nous a amené beaucoup de difficultés à repérer notre chemin, avec des arbres très grands, beaucoup de lianes. Et on s'est assez vite rendu compte qu'on n'arrivera jamais à atteindre le sommet du Calbuco. Et on est redescendu de cette première balade, on a pris de belles photos au pied de ces arbres immenses, comme on pourrait imaginer dans des forêts d'Amazonie. Et on redescend. Pendant la redescente jusqu'au gîte, on passe devant une ferme. Beaucoup de troupeaux de vaches qui meuglent d'une façon très aiguë. Enfin, c'est assez particulier. Et je sais que tous, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans cette ferme qui nous a beaucoup impressionnés, mais qu'on n'a pas relevé sur le moment. Donc, on est passé, puis on est arrivé au gîte. Là, les enfants ont souhaité se reposer. Moi, j'ai pris la voiture pour rejoindre le village, qui s'appelle Ensenada, qui est à peu près trois quarts d'heure du gîte, pour faire le plein d'essence, pour faire des courses à l'épicerie, en fait, pour préparer le voyage, puisque le lendemain, donc, on partait pour la route australe et pour réellement le début de notre périple. Je pars donc faire mon plein d'essence, ce que je fais, et puis ensuite je vais dans le village. Et là, je note dans le village une espèce d'excitation qui se matérialise par des gens qui courent dans tous les sens, qui crient. Mais il n'en reste pas moins que dans ma tête, je me dis, l'équipe du village a dû gagner un match de foot et il y a une allégresse, ils ont eu une joie. Ça m'a beaucoup étonné parce que c'est un tout petit village. Je me suis dit, les Chiliens sont vraiment mordus de foot pour être à ce point excité, et j'en aurais eu presque envie de klaxonner avec eux, tellement je trouvais ça sympathique de voir le village en toute excitation. Donc j'ai du mal à me rapprocher de l'épicerie parce que il y a vraiment beaucoup de monde dans les rues, jusqu'à ce que un villageois s'arrête devant ma voiture, me bloque, m'empêche d'avancer et m'indique avec sa main que je regarde derrière moi. Et d'une façon extrêmement insistante. Donc moi, je ne réfléchis pas plus, je sors de la voiture, je me retourne, et je vois le volcan Calbuco en éruption totale. Une énorme colonne de fumée grise qui sort de ce cratère dont le diamètre est très large. Donc en fait, ça fait une colonne de fumée qui monte dans le ciel et qui crache de la cendre, de la roche, et qui crache. En continu, des milliards de mètres cubes de cendres. Mais c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle les cendres sortent. Et là, j'ai un sentiment de sidération. C'est-à-dire, l'environnement externe disparaît. Je n'ai plus aucun souvenir de son, de bruit, je ne vois plus personne. L'impression que ça m'a donné, c'est ce monstre Godzilla, là, qui est de la littérature un peu japonaise, qui domine l'humanité et qui détruit tout. Ça m'a donné cette impression que là, la nature prenait le dessus et qu'il y avait un sentiment de se faire écraser. Et dans ce moment un peu de sidération, la première phrase qui me vient, c'est « dégage ». Et puis, je pense à ma famille, je sais qu'ils sont en danger. J'ai repris conscience que les gens couraient, criaient. Donc je sors de ma sidération et je n'ai qu'une obsession, c'est d'aller le retrouver. Sachant qu'il faut préciser que nous avons chacun un portable, mais sans carte SIM étrangère. Donc nous n'avions la possibilité d'utiliser nos portables qu'avec Internet. Donc pas de possibilité de communiquer pendant cet événement-là. Donc, je fais l'hypothèse que ma femme et mes enfants sont encore dans le gîte avec notre couple d'hôtes et leur fille. Et donc, j'ai décidé de prendre la voiture et de revenir les rejoindre pour les récupérer, puisque le cratère est vraiment juste au-dessus de la maison. Alors là, je croise un flux continu de toutes sortes de personnes, des pêcheurs avec des bottes en plastique qui sortent de la pisciculture et qui courent, des vaches avec leurs vachers, des voitures, des vélos, des motos, des mobilettes, enfin, tout le monde descend. Et moi, je suis le seul à remonter dans le sens inverse avec des cailloux qui tombent sur la toiture de la voiture. Il y a vraiment toute la vie de ce volcan qui descend et moi qui monte à toute allure pour aller retrouver ma femme et mes enfants. Et puis, j'arrive devant le gîte, il n'y a pas la voiture, il n'y a plus personne dans le gîte, les portes sont ouvertes. Je comprends à ce moment-là qu'en fait, ils ont dû partir par leurs propres moyens, très certainement avec la voiture du couple, et que ça ne sert plus à rien d'être là, puisque je ne sais pas s'ils sont sauvés, mais en tout cas, ils se sont sauvés. Et je reprends la décision de redescendre, donc cette fois-ci dans le bon sens, pour sortir de ce volcan. Donc là, je rejoins la route principale, je prends des ouvriers qui faisaient du stop. Je ne connais ni la route, ni la région. Donc ces ouvriers me conseillent d'aller dans cette direction-là et à trois quarts d'heure, une heure de voiture, d'arriver dans une ville relativement conséquente où ils savent que je pourrais avoir des connexions Internet. Donc là, je n'ai aucune pensée. C'est une succession d'obsessions. Il y a eu celle de reprendre la voiture pour aller les sauver, celle de s'écarter le plus loin possible du volcan, et puis maintenant, il y avait celle d'aller chercher du Wi-Fi pour communiquer. J'arrive dans cette ville, un hôtel se trouve à gauche. Je rentre dans l'hôtel, et là, je vois tous les touristes autour d'une télé, le volcan en train de cracher toute cette fumée, et puis un bandeau en bas avec toutes les informations en temps réel sur ce volcan. Il me voit débouler dans cet hôtel, extrêmement excité, à balbutier des mots espagnols. Et j'explique à toutes ces personnes que je viens de ce volcan, que je cherche une famille que je n'arrive pas à contacter. Donc là, ce propriétaire qui me donne son code Wi-Fi, j'essaye de trouver le numéro de portable du propriétaire du gîte. Et je pense qu'il ne faut pas 4 secondes pour que le propriétaire décroche. Ils me disent « Tu es Benoît ?» J'ai dit « Oui, je suis Benoît. » Et donc, il me dit « Tout va bien, rassure-toi, on est chez des amis. » J'ai ma femme qui m'explique effectivement que tout va bien. J'ai mes enfants avec une discussion qu'il faut bien imaginer, totalement déstructurée, entre des cris, des pleurs. Puis je leur ai dit bah, « je reprends la voiture et je vais essayer de vous rejoindre. » Là, c'est la véritable fin d'une certaine tension où tout peut lâcher. J'arrive dans ce gîte et je retrouve ma femme, mes enfants. Il y a ces retrouvailles physiques, il y a ce de pouvoir se toucher, pouvoir s'embrasser, de pouvoir pleurer ensemble. C'est autre chose que se retrouver sur les quais d'une gare. C'est vraiment la sensation de vivre en direct quelque chose de très important. Il faut savoir aussi que le volcan, depuis cette maison-là, maintenant, on le voit de l'autre côté. On le voit de loin. C'est un volcan gris et le danger absolu, c'est les nuées ardentes. Quand ces nuages qui montent dans le ciel redescendent sur le flanc d'un volcan, il est tellement chaud qu'en fait, il brûle tout. Et on voit ce volcan continuer à agir. Il crache tellement de fumée qu'en fait, il change la météo. Ce qui fait que de manière localisée, il y a des orages qui se sont créés. Donc on a un ciel plutôt lumineux à certains endroits, un ciel avec des orages à un autre. Donc en même temps qu'on voit ça, on est tous ensemble serrés, on passe la nuit blanche à essayer de dormir, à se réveiller, à regarder le volcan. Et on apprendra qu'en fait, ça a duré 2 mois, par épisode de plusieurs semaines. Donc c'était vraiment une explosion très violente. Moi, c'est la seule fois de ma vie où pendant quelques heures, je ne savais pas si ma famille était vivante. Et cette expérience au Calbuco m'a fait réaliser la chance que j'avais d'avoir mes 2 enfants. J'étais déjà très fortement attaché à mes enfants, mais penser les avoir perdus pendant quelques heures a fait de moi un père où... je les aime tellement que et j'ai pas l'impression depuis d'avoir vécu la vie avec mes enfants comme une contrainte. Je les aime en pensée, je les aime en face à face, je les aime dans leur choix. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est la scène la plus banale d'un petit déjeuner. Il n'y a pas forcément besoin de parler, il n'y a pas forcément besoin de décrire quelque chose. Peut-être qu'on en vivra 40 comme ça, et 40 fois on va vivre la même chose. Et je ne dis pas que je le fais à chacune de ces scènes-là, mais quand même très souvent, je suis amené à prendre ce petit pas de côté et me dire « mais la vie est vraiment très belle avec vous ».
Je m'appelle Patrick, je suis amateur de volcans, c'est-à-dire que je vais sur les volcans, mais je ne suis pas volcanologue. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vivre des éruptions, pas seulement d'observer les volcans de loin. Je veux vraiment ressentir les vibrations du sol, la température de la lave, voilà. Et donc, vivre des moments intenses sur des volcans en éruption. Alors j'ai grandi dans la banlieue lyonnaise, mais ma famille étant originaire du Vercors, et j'ai passé beaucoup de temps dans les grands paysages du Vercors Sud. Quitter le village, la terre des hommes, pour explorer des endroits vides de gens, ça a été une expérience que j'ai connue très tôt et que j'ai appréciée très tôt. Mon premier contact avec un volcan actif, c'était en 1981, j'avais 18 ans à l'époque, et j'ai eu l'occasion d'aller sur Vulcano. Vulcano, ce qui est fascinant, c'est que ce volcan, Vulcano, hein, si les volcans s'appellent comme ça, c'est grâce à cette île. Et c'est seulement en 1993 que je suis retourné dans les îles Éoliennes, mais cette fois à Stromboli, pour aller assister à une éruption de près. Là, vraiment, le but du voyage, c'était d'assister à une éruption à Stromboli. C'est un des rares volcans sur la planète qui est en éruption permanente. Les éruptions étaient au rendez-vous. On a passé 2 nuits avec ma compagne au sommet à contempler la lave qui jaillissait. Et ça a été vraiment un spectacle incroyable qui nous a marqué à vie. Et ça m'a donné envie d'en voir plus, de plus près, plus fort. Et j'ai eu la possibilité, j'ai cherché en tout cas à sillonner la planète pour assister à d'autres éruptions volcaniques. Ça m'a emmené en Indonésie, hein, sur les îles de Java, de Sumatra, mais aussi des Moluques, le Chili, le Mexique. Et un jour, mon ami Régis, président de la Société de volcanologie de Genève, il me fait une proposition, j'en tombe des nues. Il me propose de participer à une expédition sur le volcan Nyiragongo. Le Nyiragongo, un volcan mais mythique, c'était le volcan préféré d'Harun Taziev. Il faut imaginer que le Nyiragongo, c'est un cratère de 1,2 km de large, 400 mètres de profondeur, et au fond, vous avez le plus grand lac de lave de la planète. Donc imaginez un lac de magma incandescent qui barbote et qui fait la surface de 8 terrains de foot. Et donc pour pouvoir étudier le volcan, les volcanologues ont besoin de descendre à l'intérieur de ce cratère pour y installer des instruments d'observation, pour faire des prélèvements de gaz, pour faire des prélèvements de lave, pour comprendre la dynamique du volcan. Et donc, c'est un peu la mission de la Société de volcanologie de Genève, qui est d'épauler les volcanologues pour descendre dans ce cratère. Et là, on me propose d'y aller, de participer à une expédition. Alors là, ça a été un moment mais incroyable. Sur le coup, j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai dit non, je suis pas capable, c'est trop difficile. Puis après, le non a duré une heure. J'ai dit, c'est pas possible de dire non à une telle proposition. J'avais 9 mois pour me préparer. Physiquement, je devais être prêt. Techniquement, je devais être prêt. J'avais fait de la spéléo quand j'étais jeune, donc je connaissais les techniques. La seule différence, c'est que dans les gouffres du Vercors ou du Jura, on descend 40 mètres sur une corde. Là, il s'agissait de 400 mètres, hein, donc on était vraiment sur un autre ordre de grandeur et sur des terrains d'une extrême instabilité. Les cratères volcaniques, c'est des empilements de morceaux de lave qui fait que c'est pas du rocher solide, quoi. Hein, on pose le pied et tout s'éboule, hein, donc il faut y aller de manière extrêmement délicate. En mai 2011, le moment tant attendu arrive. Donc on arrive sur la ville de Goma, qui est au pied de ce grand stratovolcan du Nyiragongo. On était une équipe de 5 de la Société de volcanologie de Genève, associée à 5 volcanologues italiens. Nous faisons l'ascension pour arriver au rebord du cratère avec tout le matériel. Au total, il y avait 104 porteurs. Tous les porteurs de la ville de Kibati ont participé à la mission. Voilà, donc on monte 1500 mètres de dénivelé, on arrive au rebord du cratère, on est à 3400 mètres d'altitude, hein, donc on a le souffle court, hein, parce que c'est le manque d'oxygène se fait sentir. Hein, et tous les porteurs redescendent. Voilà, pour la plupart des gens, le but est atteint. Et pour nous, bah, c'est le début de l'aventure, puisque on est sur le rebord de cet immense cratère. Et donc, l'équipement de la paroi commence. Hein, donc là, nos spécialistes commencent à installer la descente. On désescalade par les cordes avec les pieds sur la paroi. Là, l'ambiance change parce qu'on se retrouve à l'intérieur du cratère et on distingue entre les gaz, cette surface incandescente qui s'agite et qui est le but de la mission. La lave, le lac de lave. Et puis on arrive à ce qu'on appelle la deuxième terrasse. Donc c'est un grand replat sur lequel on installe le campement. Et là, on va y passer 10 jours. Les volcanologues sont restés 4-5 jours. Et nous, ensuite, on a continué notre séjour au fond du Neragongo. Et cette fois, c'était vraiment de la pure découverte du cratère. Hein, donc, on a passé des heures, mais incroyables, à explorer ce fond de cratère qui n'avait jamais été foulé. Est-ce que vous avez déjà été capté par un feu de camp, le feu d'une cheminée, voire même la flamme d'une bougie? Eh ben, imaginez la surface incandescente d'un lac de lave. Quand on est au bord, en fait, il occupe tout notre champ visuel. La surface du lac est recouverte d'une peau de roche, en quelque sorte, hein, très très fine, qui correspond à la lave qui refroidit en surface. Et cette peau de roche grise, elle est percée en permanence par des fontaines de lave qui sont dues au gaz du magma, qui sortent violemment, et qui soulèvent cette peau et font jaillir la lave. En fait, c'est un monde très coloré. La couleur, elle vient des fleurs de soufre, par exemple. Alors, c'est pas des fleurs, c'est des cristaux de soufre. Hein, vous avez des reflets bleutés, parfois, sur la lave. On dirait vraiment de la couleur du lapis lazuli. On est entièrement, notre esprit est entièrement happé par l'incandescence de la lave, par la mouvance de la surface du lac. On ressent certainement pas de la peur. Il n'y a absolument rien qui fait peur là-dedans, hein, puisque c'est vraiment très paisible. J'ai eu peur, moi, sur les cordes, hein, parce que pour moi, c'est pas naturel, c'est suspendu à des cordes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et
c'est pas très naturel d'être dans un cratère, non.
C'est vrai. Mais les moments de peur sont ceux liés à la descente. Enfin, pour moi. Hein. Par contre, une fois qu'on est en bas, il n'y a aucun sentiment de peur. Et l'activité même de ce volcan fait qu'il y a très peu de risques. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Ce qui pourrait se passer éventuellement, c'est qu'il y a un séisme. Voilà. S'il y a un séisme, il ne faudrait pas être là. La totalité du sol pourrait s'effondrer. Hein. Et puis, on serait envahi par les gaz. Hein. Voilà. Et on n'aurait plus d'oxygène pour respirer. C'est arrivé une fois en 77, une fois en 2002. Il est très peu probable qu'un tel événement ait lieu au moment où on est dans le cratère. On est au bord de ce lac de lave qui paraît tellement paisible. Surtout, imaginez qu'on est au cœur d'une région qui subit les actions de groupes armés, qui est ravagée par des guerres. On est à la frontière avec le Rwanda, hein, et donc la période post-génocide a amené de très nombreux groupes rebelles à venir se réfugier ici. Il y a une vingtaine de groupes rebelles qui s'affrontent. Voilà, donc c'est des situations qui sont très complexes. Et vraiment, le volcan, mais c'est pas leur priorité. Et d'ailleurs, c'est la priorité de personne. On avait vu que l'ONU lui-même avait construit des tentes de réfugiés sur la coulée de 2002. Ça veut dire que si un jour il y avait une nouvelle éruption, la première chose qui serait détruite, c'est les camps de réfugiés. Et on est finalement dans le seul endroit dans le Nord Kivu où la paix est totale. Hein, et c'est au bord d'un lac de lave. Il n'y a pas de problème de guerre, il n'y a pas de problème lié aux hommes.
Parce qu'il n'y a pas d'homme.
Ah, il n'y a pas d'homme. C'est un monde entièrement minéral. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de végétaux. Que du minéral. Et on est dans un sanctuaire de beauté minérale. On est au cœur de la planète. À l'échelle géologique, c'est faux de dire ça, hein, mais c'est le sentiment qu'on a. On est vraiment l'impression d'être au centre de la Terre. On n'est plus dans le présent de l'humanité. Alors, la sortie du cratère, elle est compliquée, hein. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il faut s'extraire vraiment de ce lieu magique pour retrouver le monde des hommes, en quelque sorte. Alors ça passe déjà par des gros efforts physiques, parce que tout ce qu'on a descendu, il faut le remonter, et puis il faut remonter tout le matériel. Donc là, c'est deux jours entiers d'aller-retour sur la paroi qui sont épuisants. Et quand on se retrouve à l'extérieur du volcan, et quand on redescend en direction de Goma, on est saisi par les odeurs des végétaux. C'est incroyable, ça nous saute aux narines. Et là, on se rend compte qu'on était dans une misère olfactive terrible, hein. C'est-à-dire qu'en dehors du dioxyde de soufre, on ne sentait plus rien. Et on est très content de redécouvrir la végétation du flanc du volcan. La terre normale, en quelque sorte, c'est-à-dire celle qui est végétalisée, celle qui est habitable, celle qui est verte. On a conscience de vivre. Et en 2021, donc, le lac de lave s'est vidangé. Le réservoir de lave, il y avait plus de 20 millions de mètres cubes de lave hein, dans le cratère, selon nos dernières estimations. Une partie s'est vidangée sur le flanc est du volcan, donc un flanc inhabité, avant que la coulée ne gagne la ville de Goma, et une partie des faubourgs de Goma ont été détruits. Il y a eu une quinzaine de morts liées à cette éruption. Mais le fait qu'il y ait déjà eu une vidange côté est a empêché la ville d'être... plus détruite que ça, en fait. C'est un peu une chance. Et donc, le lac de lave n'existe plus, c'est-à-dire qu'actuellement, le cratère, c'est un grand entonnoir, 700-800 mètres de profondeur, et la lave n'est toujours pas revenue. Et ce lac si fascinant n'existe plus actuellement. Franchement, ce qui me fait peur, c'est la folie humaine, quoi. C'est ça qui me fait peur. Mais pas de m'approcher d'un volcan en éruption.
C'était Volcan, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Somaya Dabèche. Merci bien sûr à Benoît et Patrick, l'attaché de production des Pieds sur Terre, Céso et Coupé. Et notre stagiaire, c'est Hortense Martin.
Sogne que le rio me hablaba, con voz de nieve cumbreña, y dulce me recordaba. Las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Es cosa triste ese río, ¿quién pudiera ser laguna? Oír el silbo en el junco. Besa la luna. tú que puedes, vuélvete. Me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Qué cosa más parecida son tu destino y el mío. Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete. Me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, ya te están esperando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete, tú que puedes, vuélvete.